Les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chollet.
Bonjour, je suis avec Jean-Pierre Chollet, potier céramiste, installé depuis plus de 20 ans comme céramiste tout près de Bruniquel, à Briand-des-Vers. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Rosendo.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Dis-moi, tu as découvert la poterie, je sais, autour de 26 ans. Oui, c'était une visite à une exposition qui s'appelait Terre Hélène. Alors, raconte-moi comment...
Oui, alors, bon, j'étais à cette époque-là dans un métier qui n'avait rien à voir avec la poterie et avec l'art en général. J'étais électronicien, puis physicien au commissariat de l'énergie atomique. Mais enfin, bon, je dessinais depuis mon enfance, je m'intéressais quand même à l'art. Et en me baladant dans Paris, je découvre à l'Hôtel de Sens... au bord de la Seine, une exposition qui s'appelait Terre Hélène. Je rentre et ça a été vraiment une découverte, une espèce de coup de foudre. J'ai découvert des pièces, je l'ai su après, de grands céramistes contemporains et vraiment, c'est vraiment une découverte. Et à l'époque, il se trouve que avec un camarade du centre atomique où je travaillais, on avait discuté de céramique un petit peu. Il m'avait prêté un bouquin qui s'appelait La Poterie, qui a été réédité depuis sous le titre de Le Poème Céramique de Daniel de Montmolin, qui est un grand céramiste contemporain, frère de Thésée.
Oui.
Et la conjugaison de cette exposition et de ce livre... pour moi, ça a été une espèce d'acte fondateur dans mon travail de poterie. On a créé avec cet ami un atelier dans le cadre d'une section culturelle d'entreprise et j'ai commencé à faire de la poterie en 65.
Oui, mais il a fallu 18 ans après, oui. 1983, pour que tu abandonnes pour une première fois la physique nucléaire. Et puis, 4 ans après, tu l'abandonnes définitivement. Explique-moi comment s'est passé la première fois, la deuxième fois.
Voilà, disons que pendant 5-6 ans, c'était vraiment du bricolage, hein. J'avais jamais vu un potier tourner, etc. Et puis quand ça a vraiment commencé à m'intéresser, en 71, avec ma compagne, on a fait un stage à La Borne, qui est un haut lieu de poterie depuis des siècles, et l'année d'après, au château de Ratilly, en Puisaye, qui était aussi un très haut lieu de poterie avec deux grands céramistes, Jeanne et Norbert Pierlot. Et à partir de là, je me suis dit que cette nouvelle vie était envisageable, c'est-à-dire de quitter mon travail de scientifique pour un travail artistique, voilà. Donc, à partir de là, de ces deux stages, qui étaient des stages malgré tout assez courts, j'ai fait une formation autodidacte. C'est-à-dire que j'ai puisé dans des livres, dans la littérature qui existait assez peu à l'époque, et j'ai rencontré, j'ai eu des amis potiers, etc. Et on a, avec Colette, acheté la maison où je suis maintenant, c'est-à-dire plusieurs bâtiments dans ce hameau de Briand-des-Vers, dans le but de s'installer avant la fin des années 70.
Pour rappeler, c'est à 5 minutes de Bruniquel, Briand-des-Vers.
Voilà. Les aléas de la vie en ont décidé autrement. Colette a eu un très grave accident en 79 qui a mis 8 ans pour se réparer avec... des opérations multiples, etc. Si bien que mon installation définitive est intervenue en 87.
Mais c'était en 84, je pense, que c'était ta première exposition.
Alors, on a fait une première tentative d'installation en 83-84.
Oui. T'aurais 45 ans.
Et Colette a fait une rechute, elle est rentrée 5 mois à l'hôpital de Montauban, donc voilà. Donc l'installation définitive a eu lieu seulement en 87.
Oui, oui. Et à cette époque-là, déjà, Colette faisait ses expositions de peinture ou c'est venu après?
Elle avait recommencé à peindre en 84-85 sous l'influence de Xavier Krebs, qui est un grand ami et voisin, grand peintre contemporain.
J'espère qu'un jour puisse venir ici aussi.
Voilà, bah oui, ça serait bien.
Diras, oui. Oui.
Voilà, donc Colette a recommencé à peindre à ce moment-là seulement. On avait peint ensemble, lorsqu'on s'est connus, c'est-à-dire à la fin des années 60. On faisait... moi, je faisais beaucoup d'aquarelles à l'époque, mais à l'extérieur, quoi. Je peignais des paysages.
Et pour revenir un petit peu à l'activité des physiques nucléaires, bon, je sais que c'était une autre vie, comme tu l'as
défini. Oui, oui.
Mais pour moi, c'est une bonne base de départ, parce que je pense que rien n'arrive sans la science, même si parfois on ne la maîtrise pas. Parce que j'ai beaucoup confiance dans un texte qui pour moi est fondateur de Ernst Cassirer, c'est un philosophe allemand, où il dit l'importance de la connaissance scientifique, même si on n'arrive pas à être spécialiste, pour pouvoir faire une intégration, pour pouvoir faire une compréhension du monde, et surtout le monde des arts. Donc lui, il prône l'union, la connaissance transversale des sciences de la nature comme sciences sociales et surtout l'art. Non? Donc, tu crois que cette activité, tu ne crois pas, je repose la question,
que
quand même cette physique nucléaire, cette disposition à percevoir l'infiniment petit, ça t'a prédisposé à capter toutes les nuances des couleurs, les craquelures de la terre, les matières. Tu vois, je ne vais pas plonger dans un discours, je ne vais pas t'inciter à présenter la théorie de l'antimatière ou les nouvelles utilisations. Mais quand même, je pense qu'il y a un lien quand même qui t'a prédisposé à la poterie.
Alors, je ne l'ai peut-être pas aperçu à l'époque parce que quand j'y réfléchis, je pense que j'aurais aimé faire les beaux-arts. J'étais l'aîné de trois garçons dans une famille ouvrière, pas particulièrement argentée, et pour lesquels les beaux-arts c'était quelque chose qui était inenvisageable, bien que quand j'avais 10-11 ans, ma mère économisait pour me payer des cours de dessin dans un truc par correspondance à l'époque. Donc, ce que je pense, c'est que cette disposition cet intérêt pour l'art m'a rattrapé et j'ai basculé à nouveau là-dedans. Mais maintenant, c'est vrai, je m'intéresse à nouveau... à la physique et en particulier à la cosmologie. J'ai plein de bouquins, etc. Et c'est vrai que ça a un rapport évident pour moi maintenant avec mon travail sur la matière.
Et un peu pour abonder, pas dans ton passé, mais plutôt dans les mondes de référence contemporaine, non? Parce que tu as cité la cosmologie, on peut les rapprocher à l'astronomie. Pas l'astrologie, attention, je dis bien l'astronomie. Et un petit livre de Umberto Eco qui parle sur l'art contemporain, la critique de l'art contemporain. Donc lui, et ça se me vient maintenant à l'esprit, et le titre, si je ne me trompe pas, c'est comment voyager avec un saumon. Et dans un de ses chapitres, il donne C'est des pastiches, c'est des tons un peu de sarcasme vis-à-vis de la critique de l'art contemporain surtout. Alors il dit, mais être critique de l'art contemporain, c'est très facile. Il suffit que vous appreniez par cœur la terminologie des astrophysiciens ou des physiques nucléaires. Tiens, c'est pour ça que je suis content de te voir ici, parce qu'au moins tu sais de quoi tu parles. Et après, on fait un cocktail de tous ces mots. Il faut surtout que ce soit inintelligible, il faut que ce soit incompréhensible.
Oui.
Comme ça, le public va croire que vous parlez de quelque chose d'intelligent. Et le tour de passe-passe, c'est fait. Et bon, alors, bah, voilà, je t'invite à cette lecture d'Umberto Eco et aux auditeurs aussi, parce que c'est vraiment plein d'humour.
Ah oui, oui, bah,
à ce sujet.
Stella by Starlight. Vous écoutez CFM, les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chollet.
Voilà, bon, on a commencé par cet intermède musical, un morceau de Stan Getz, parce que bon, c'est un musicien de jazz que j'aime beaucoup, parmi d'autres. Bon, il y a une espèce de grande décontraction dans son œuvre et dans sa façon de jouer, qui correspond à ce que je cherche dans mon propre travail, voilà.
Oui, à propos de ton propre travail, justement, j'ai vu cette œuvre qui n'a pas de titre, mais que je vais essayer de la décrire, Jean-Pierre. C'est un rectangle, pour être un peu piètrement résumé, c'est un rectangle à peu près de 63 par 34 centimètres, 3 ou 4 centimètres d'épaisseur, et que c'est au fait gris émaillé. Bon, la cuisson, ça peut varier, mais ici, dans ces cas-là, je sais qu'il a été cuit à 1300 degrés, et je me concentre surtout sur la couleur, d'abord. C'est une couleur un petit peu rouge, ocre, pas très saturée, mais ce qui m'intéressait dans l'ombre, parce que je l'ai vu, et c'est différent à la revoir une photo, c'est la différence de brillance et de matité entre les matières. C'est-à-dire que tu as le gris, qui est parfois baigné avec des coulures de la vitrification, de l'émail, donc, que c'est les chinos blancs. Les chinos blancs, pour être plus clair pour l'auditeur, c'est un concept japonais et, par rapport à la matière, c'est que tu pourras peut-être m'aider plus tard, et qui vient en couleur, en contraste de couleur et en contraste aussi de la brillance. Donc il y a un beau contraste de cette brillance avec la qualité opaque de cette base de gris rouge brun qui n'est pas lisse, hein. Attention, c'est un peu texturé comme la peau d'un cocodrilo, comme la peau d'un reptile. Et voilà, c'est pas une représentation figurative, on l'a bien compris, c'est une beauté de l'abstrait. Donc voilà, j'ai essayé de remémorer grâce à ta photo, parce que je l'ai vue dans ton jardin, c'est une œuvre qui se trouve à ton atelier, à Briand-des-Vers, je rappelle que c'est tout près de Bruniquel. Et voilà, donc je t'invite, Jean-Pierre, à terminer, compléter, corriger la description de ton œuvre.
Bon, je pense qu'elle est, elle est très représentative de mon travail de ces dernières années. Bon, une œuvre assez brute, pour ne pas dire brutale, mais en même temps raffinée. C'est ce que je recherche dans ma céramique actuellement. Et cette céramique, elle s'apparente beaucoup à la céramique japonaise. De la cérémonie du thé qui est apparue au Japon au XVIe siècle sous l'impulsion d'un maître du thé qui s'appelait Senno Rikyu et qui a créé avec des potiers de l'époque une céramique où la matière avait beaucoup d'importance, et bon, elle a aussi beaucoup d'importance que pour moi. Et dans cette œuvre, je veux montrer, mais on le découvre rien qu'en la voyant, que la céramique, c'est une question de fusion de roches. Il y a des coulées qui ne sont pas forcément maîtrisés, c'est-à-dire que quand on émaille une pièce comme ça, il y a beaucoup de risques, et bon, de temps en temps, il sort une œuvre comme celle-là que j'apprécie particulièrement, hein, qui est probablement une des meilleures choses que j'ai faites ces dernières années.
Et on peut la voir
Je l'ai toujours, et je pense que au cours de l'exposition que je fais en ce moment, dont on parlera tout à l'heure, j'ai mis un point rouge, c'est-à-dire que je l'ai retiré de la vente. que c'est une œuvre. Bon, je garde pas souvent des œuvres personnelles, mais celle-là, je crois que je vais la garder.
Hein. Oui, mais parfois les points rouges développent plutôt la convoitise.
La convoitise, c'est moi qui l'ai.
Oui. À tout à l'heure, tu disais, en complétant la description de ton œuvre, c'est hasard. Et que tu disais qu'on maîtrise pas. Mais tu crois pas, Jean-Pierre, que quand même, par ton expérience, par la volonté de cuire à tel degré, l'utilisation de certains oxydes, de certaines argiles, déjà, quand même, tu aides ou tu poses un petit peu le hasard? Parce que quand même, c'est vrai que tu sais pas qu'est-ce qui va sortir, mais quand même, tu as une petite idée.
Oui, bien sûr, évidemment. Les glaçures, le travail des glaçures, je le connais. Quand je travaille sur une nouvelle glaçure, je fais de nombreux essais, donc je sais comment ça fonctionne. Mais j'en ai souvent parlé. Si je suis céramiste plutôt que peintre. C'est parce que ce grand mystère quand même de la cuisson, je veux dire, le potier n'est pas dans le four, hein, il conduit le feu, mais bon, ce qui se passe dans le four, il est pas présent, hein, et c'est vrai que cette part de hasard, je la revendique comme un acte créatif, parce que je pense que l'être humain n'est pas le maître de l'univers, hein, et que les choses se font parfois sans lui, Et c'est le cas pour la céramique. C'est qu'il y a une part de reconnaissance dans une pièce qu'on sort de du four qui ne correspond pas à une maîtrise totale de l'humain sur la matière, par exemple. Oui.
Et voilà. C'est peut-être c'est ça qui nous ensorcelle, qui nous attire.
Tout à fait.
Cette, cette particule, cette grande partie de hasard. Mais c'est pas tout à tout hasard que je vais citer quelqu'un, mais je t'invite. Tu as parlé de ton œuvre, moi je parlais de ton œuvre, mais je vais inviter une troisième personne à travers ta voix. Donc il s'agit de Catherine Boursa.
Oui.
Donc je t'invite à lire un texte qu'elle a écrit. Et...
Oui, alors c'est une amie qui a beaucoup fréquenté mon atelier pendant des années. Elle venait en vacances chez des amis dans le Tarn-et-Garonne et on discutait de céramique. Elle m'a acheté de très beaux bols que j'ai revus chez elle. Presque avec étonnement, en disant c'est moi qui ai pu faire ces choses-là.
Et avec un but aussi de les récupérer.
Non. Et en 99, avec son compagnon, ils avaient découvert un grand plat carré chez moi qu'ils voulaient acquérir et qui était destiné à une exposition dans une galerie qui s'appelle l'ancienne poste à Toussy, en Puisée, en Bourgogne. Et je lui avais dit, bah écoute, une œuvre destinée à une exposition, non, c'est pas possible. Par contre, si vous la voulez vraiment, bah vous venez au vernissage à Toussy, donc à l'automne 99. Donc ils sont venus et ils ont mis un point rouge sur ce grand plat. Et la responsable de la galerie, à ce moment-là, m'a demandé si, pour le journal de la galerie, il y avait quelqu'un qui était dans l'exposition et qui pouvait écrire un texte sur moi. Donc, je me suis lancé, je suis allé voir Catherine et je lui ai dit, bon, bah écoute...
C'est les textes que tu as.
C'est pas ce texte-là, mais depuis, on se connaît, elle habite dans la région, elle m'en a écrit un autre qui est celui-ci. Elle a une compréhension de mon travail comme je serais incapable de le faire d'ailleurs, hein.
Allez, vas-y,
donc voilà, jamais réfléchi, toujours aléatoire, imparfaite ou géométriquement anodine, ses formes naissent exclusivement de la plasticité ludique de l'argile qui s'imprime, se tord, se plie, se déchire. Parfois, des portions de l'épiderme de terre restent nues, sortant du feu ridé, faillé, raviné. Nouvelle topographie. Géode, lame, carapace, cataracte, tout n'est pour l'émail que surface à investir, à explorer, à fusionner. Il naît sans de roche, rien d'autre après tout qu'une argile un peu plus fusible. Sur le relief, les aspérités, les anfractuosités, il glisse monochrome, ou en jamais plus de trois couches superposées avec retenue. Recherche de l'effet plus que de la couleur. Dans les veines, les combles, les rides, il s'épanche et se recueille. Effet crucial pour Jean-Pierre Chollet, toujours dans l'empirisme volontaire, aux aguets du dialogue intime qui se noue au feu entre les rencontres provoquées. Ce qu'il attend, que la chair épouse les os, comme on dit en calligraphie chinoise. Un surgissement, pas un miracle. Une évidence de parfaite conjonction dans les errances de deux matières en fusion. Et que se dresse dans l'espace le fruit évident de cette rencontre, un objet céramique, une forme indubitablement existante par sa matière même. Il en résulte ses collections de terre émaillée, frustes, brutes, imprécises, mais chargée d'évidence au regard.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Des reins, le mal, le vivre, le mal de vivre, boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qui promener de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre.
Barbara, le mal de vivre. Les rendez-vous de Rosendo aujourd'hui, Jean-Pierre Chollet.
Bon, alors j'ai pas besoin de vous dire que j'aime Barbara. En particulier dans cette chanson, qui est le reflet de la vie, hein, c'est-à-dire des hauts et des bas, des joies et des peines. Mais qui se rapproche aussi de ma perception de l'art en général. Hein.
Bien, Jean-Pierre, cette fois-ci, je vais te citer un texte court, hein, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'infliger mon accent longtemps. Donc, ce texte dit ceci, « Un lac décoré à la poudre d'or n'est pas fait pour être embrassé d'un seul coup d'œil dans un endroit illuminé, mais pour être deviné dans un lieu obscur. » Dans une lueur diffuse qui, par instant, en révèle l'un ou l'autre détail de telle sorte qu'il suscite des résonances inexprimables. Tu reconnais ces...
Oui, c'est un texte de Tanizaki dans ce bouquin que je relis, qui est L'éloge de l'ombre, qui a été écrit au début du 20e siècle.
Et tu te souviens comme ça, parce que je t'ai pas prévenu que j'ai
non, mais bon, texte. Oui, c'est je l'ai tellement lu et relu que je suis capable de reconnaître un texte et oui, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que j'habite une maison ancienne qui a plus de 200 ans et probablement dont certaines parties sont du 15e siècle. Et des amis qui viennent de la région parisienne et d'appartements extrêmement lumineux me disent « Ah, ta maison est sombre », etc. Et je leur dis « Ben, il faut que vous lisiez un bouquin, c'est Éloge de l'ombre ». Oui. Et découvrir dans une maison au lever du soleil le matin, certaines peintures qui vivent et qui après s'éteignent, et d'autres qui vivent le soir, etc. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Mmh. Et c'est cette lumière maintenant qu'on voit dans les appartements modernes où tout est éclairé d'une façon équivalente à toutes les heures de la journée, ça me fatigue.
Oui, oui. Voilà. Mais c'est exceptionnel comme parfois les silences ou l'obscurité peut dévoiler plus, peut révéler plus.
Oui, c'est vrai.
Lumière. Je pense que la métaphore de la lumière aveuglante, ça tombe bien pour le cas de Tanizaki, non? Il y a eu des critiques littéraires à propos de son livre où on parle, dit jamais on a pu montrer les raffinements de la culture japonaise à travers les mots comme on le fait lui, et même au point de comparer ses poèmes ou cette écriture, parce que c'est plutôt un essai, je pense, non, de ce livre, c'est un essai sur la culture japonaise. Et lui, ce journaliste qui s'appelle André Clavel, il évoque les raffinements que l'on retrouve aussi bien dans les galbes d'une pierre de jade, dans les silences d'un temple, dans la concentration lapidaire d'un haïku, dans la sobriété des gestes, des politesses ou des techniques culinaires, toutes en ellipse. Bon, je pense que c'est ta manière de s'approcher de la culture orientale, surtout japonaise, à laquelle tu es très attaché.
Ah oui, oui.
Il décrit très, très bien, et il est bien exposé dans les livres de Junichiro Tanizaki, qui est mort en 1965. Pardon, tu voulais me dire quelque chose à propos?
Non, parce que bon, je rapproche de ça, enfin des bouquins qui me sont chers aussi, c'est des bouquins de Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, La Terre et les rêveries du repos, enfin bon,
il y a Roland Barthes
et de Roland Barthes aussi L'Empire des Signes, merveilleux livre sur le Japon.
Oui. Et puisque on parle des livres, tu avais cité tout à l'heure aussi les livres, disons, qui a initié ta passion de la poterie, c'est ses frères. C'est théologien des Suisses, je crois.
C'est un frère de la communauté œcuménique de Thésée, en Bourgogne.
Ah, il n'était pas suisse, lui?
Il était d'origine suisse. Oui, je crois qu'il est né à Genève.
Oui, je pense aussi. Mais on parle là de Daniel.
Daniel de Montmolin. C'est un très grand céramiste d'abord. Mmh. Il a merveilleusement écrit sur la céramique et en particulier, ce livre fondateur pour beaucoup de céramistes contemporains, qui s'est appelé La Poterie à l'époque où il est sorti et qui a été réédité sous le titre Le Poème Céramique. Mmh. Et c'est pas du tout des textes techniques. C'est un des textes très poétiques.
Oui, c'est ça que j'en ai pensé au départ.
Qui font découvrir ce qu'est la poterie en général, mm-hmm. et la céramique en particulier. Je citerai pas de parce que bon, tout est à lire. Et ce bouquin il existe encore aux éditions de la Revue de la céramique et du verre. Et pour les gens qui s'intéresseraient à la céramique, c'est certainement le plus merveilleux bouquin qu'on ait écrit sur cet art, quoi. Mm-hmm. Hein.
Oui, à propos du silence là, qui a été évoqué par Tanizaki, par ton atelier, par l'obscurité qui révèle mieux que la lumière, je pense à un cinéaste qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Bon, et pour moi, c'était aussi un cinéaste phare que j'ai redécouvert plus tard, et Bergman, que je pense que tu aimes aussi. Et je vais te convoquer à imaginer la première scène de son dernier film, Sarabande. Ullman, c'est l'actrice fétiche, commence en disant, voilà, il s'adresse au public dans cette première scène, il dit, je vous invite à une minute d'observation, une minute de préface, quelque chose comme ça, j'ai ces souvenirs. Et effectivement, il se passe une minute, sans rien dire. Et c'est que, par exemple, pour la radio, c'est interdit, c'est presque suicidaire de laisser une minute de silence. Mais pour les films de Berman, c'est une minute, mais vraiment, qui avait du sens. Ce n'est pas les minutes, la minute de silence ou la parole un peu compliquée qui veut se rendre un peu inintelligible pour paraître intelligente, comme nous avons évoqué certains critiques d'art contemporain. Mais non, ici, il y avait tout son sens. Et là, Berman est devenu pour moi une icône, c'est une légende, et pour comprendre l'art du cinéma. Mais on n'est pas là pour parler des mégots, mais pour les tiens. Et Berman, je sais que pour toi aussi,
ah oui,
ça
oui,
signifie
bah
beaucoup.
Oui, c'est... Oui, c'est ce que je t'avais dit dans les, lorsqu'on a pris contact. En fait, mes goûts sont très éclectiques en art en général et en littérature, au cinéma, etc. J'aime des tas de gens. C'est vrai que j'avais cité, pour ce qui concerne les films, François Truffaut, Kieslowski, Bergman, Woody Allen, qui lui au contraire est un bavard impénitent, mais bon.
Mais il est nourri aussi de Bergman, il a déclaré.
Ouais, oui, tout à fait. Tout ça, j'aime ça. Oui.
Oui. Et tu as vu les derniers films de Woody Allen ou les derniers parce qu'il a
Oui, les ai vus très récemment. Oui. Oui.
Et tu n'as pas l'impression que Woody Allen, pour parler de tes goûts aussi sur Woody Allen, est devenu un petit peu plus guilleré, un peu plus léger.
Oui, absolument.
Parce
qu'avant,
quand on voit Manhattan, quand on voit Anna et ses sœurs, on voit une gravité, une perception presque bergmienne de la vie.
C'est-à-dire que, bon, on a l'impression qu'il se retire un peu il participait en tant qu'acteur. Bon, maintenant, il a un peu de recul vis-à-vis de
Oui, il est vrai aussi que Woody Allen, expression. Dans pas mal d'entretiens, il a dit que il est pas croyant, il est athée, mais si le moment de passer de l'autre côté arrive, il dit mais pourquoi pas croire en Dieu, comme ça on fait une espèce d'assurance vie, non? Et peut-être que là il commence on commence à voir c'est un âge vénérable et du coup il s'approche de manière guillerette un peu plus légère.
Oui.
Pardon, tu
non voyais... non je regardais mes notes en ce qui concerne les films, puisque bon on est un peu là-dedans. Bon, c'est pareil, je reviens à mes goûts très éclectiques et c'est vrai qu'il y a des films où paraissent la nostalgie, l'émotion, l'élégance, le drame, certains romantismes que j'aime beaucoup aussi. Je citais Out of Africa, Sur la route de Madison, etc. Enfin, ce genre de films.
Oui.
Voilà.
Mais,
bon.
Mais c'est ce qui m'est étonné que tu ne cites pas parmi ces florilèges des réalisateurs qui travaillent sur le silence comme Berman. Je me disais, mais peut-être que Ozu.
Ah oui, non, mais bon. J'aurais pu citer des dizaines de noms, donc je me suis.
Ce grand cinéaste japonais qui travaille sur les silences, qui travaille avec des mises en scène vraiment, vraiment repensées. Et toutes les objets ont une valeur symbolique pour lui. On revient à cette histoire des signes de Roland Barthes, non? L'empire des signes. C'est pas l'empire des sens, c'était un autre japonais, un autre langage. Mais la osu, quand même.
Oui. C'est vrai, oui. Bah oui, maintenant que tu m'y fais penser.
Oui, c'est... Bien, donc on a fait un petit parcours des livres, des films, et on se revoit tout de suite après cette pause musicale.
D'accord. Thank you.
un extrait d'Agnus Dei de Jean-Sébastien Bach avec Kathleen Ferrier et le London Philharmonic Orchestra sous la direction de Sir Adrian Boult. Dans l'émission de Rosendoli, les rendez-vous de Rosendo, aujourd'hui, Jean-Pierre Chollet.
Oui, alors cet extrait de l'Agnus Dei de la messe en si mineur de Bach par Kathleen Ferrier, j'ai voulu absolument la passer. Quand j'écoute cet air tout seul, je fonds en larmes, hein, parce que c'est une espèce de dommage que j'ai fait à mon épouse morte il y a 6 ans.
Colette.
Et pour moi, cette voix extraordinaire de Kathleen Ferrier, elle reflète aussi ma conception de l'art en général, qui doit, contrairement à ce qu'on pense dans l'art très contemporain, qui doit faire référence à la beauté du monde. Et ça, pour moi, c'est primordial. Je peux pas concevoir, pour ma part, de concevoir une œuvre sans faire référence à la beauté du monde, de la nature, voilà. Et cette musique, la musique de Bach en général, et cet air en particulier, ils font référence d'une façon absolue, quoi. Hein. Voilà.
Bien. Et Jean-Pierre, tes projets, tes expos, tes lieux, la manière comment le public peut voir et revoir tes œuvres.
Alors, j'ai un atelier à Briand-Vert avec une salle d'exposition dans laquelle en ce moment est présentée une exposition qui s'appelle Argile, Seth et la Terre. C'est une exposition que j'ai conçue il y a maintenant 13 ans, puisque la première a eu lieu en 2000. Et il y en a eu une en 2005, une en 2010. Et le projet de départ, c'était d'inviter des artistes plasticiens, non céramistes, peintres, sculpteurs, etc., à travailler la terre. Le projet actuel a un peu dérivé, hein, bon, j'en dirai pas plus, mais cette expo est présentée en ce moment à Briand-Vert. L'exposition est ouverte le week-end, et en semaine, si les gens ne peuvent pas venir le samedi et le dimanche. Donc à ce moment-là, il faut me téléphoner au
05, ah oui, vas-y.
Au 05 63 67 26 07 pour prendre rendez-vous. Bah, par exemple, ce matin, j'étais pas là puisque je suis à CFM Radio. Voilà, cette exposition dure jusqu'au week-end du 23-24 juin, je crois.
Mm-hmm. Oui.
Bon, ensuite, j'aurai une exposition à l'automne au Musée d'art moderne et contemporain de Cordes, qui va être une espèce de rétrospective de mon travail de ces 15 dernières années. En réunissant des œuvres sur des thèmes. Au cours de cette exposition, j'invite une association de jeunes céramistes, toutes des jeunes femmes d'ailleurs, c'est la profession à l'heure actuelle se féminise, et tant mieux. Et c'est un groupe qui s'appelle les Alluminés.
Mmh. Hein, c'est pas les illuminés.
Les alluminés qui font référence à l'alumine, qui est un matériau qu'on trouve beaucoup dans la céramique. Et elles exposeront avec moi à partir de mi-septembre au Musée des Beaux-Arts de Cornes. Voilà, bon, bah, mes projets, c'est de continuer. Hein,
Et pour cette exposition qui se prépare, est-ce que tu vas présenter encore c'est une espèce de rétrospective, non?
Oui.
Et parce que je voulais que tu dises un mot sur ce que tu exposes actuellement à Briand-Vert, à cette exposition Argile, c'était la Terre, où je suis allé à ton vernissage. Et j'ai vu que tu travailles sur les anneaux, les bandes, des Moebius.
Oui, alors là, c'est vraiment, c'est vraiment le, bon, on dit le pur hasard, même si le hasard n'existe pas. Pourquoi j'ai taillé au ciseau des bandes de papier chez moi il y a 3 mois, et puis je les ai collées en forme d'anneaux de Moebius, et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est des choses que j'aimerais bien faire en céramique. Donc j'ai commencé à faire des petits anneaux, et puis des plus grands, et puis pour cette exposition, encore des plus grands, et j'aurais voulu aller plus loin. Et il se trouve que j'ai travaillé ces bandes d'argile noire et de porcelaine comme le faisait une grande amie, Aline Favre, une grande céramiste suisse qui est morte il y a 3 mois. Et j'ai fabriqué ces anneaux de Moebius un peu en hommage à Aline.
Donc, et il se trouve continuité entre la vie et la mort.
Voilà, absolument. Bon, oui. Cet anneau de Moebius, c'est un concept mathématique.
Voilà, c'est les...
où on passe de l'intérieur à l'extérieur à l'infini.
Oui.
Hein, il y a pas d'intérieur, pas d'extérieur. Oui. Et bon, ça fait référence aussi à la vie, à la mort, hein, qui est dans une continuité. Et j'ai fait donc un hommage à Aline, et c'est venu comme ça, quoi. J'y ai pas pensé à l'avance. Voilà. Et il se trouve que les invités de cette exposition, qui ont tous travaillé avec Aline, et on l'a fait sans se concerter, ont fait aussi dans l'exposition un hommage à Aline à travers le travail qu'ils avaient effectué avec elle. Voilà, c'est assez. On n'en avait pas parlé, quoi. Hein. Bon, simplement, c'était une amie commune et qui a disparu en fin d'année dernière. Voilà.
Merci Jean-Pierre d'être là et bonne continuation.
Merci.
C'était les rendez-vous de Rosendo, aujourd'hui avec Jean-Pierre Chollet. Les rendez-vous de Rosendo, c'est tous les dimanches à 13h, tous les mardis à 23h, sur CFM Radio. Et c'est quand vous le voulez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur cfmradio.fr.